This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 76 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de décryptage d'une poignée de programmes qui vont changer à jamais le destin des séries hexagonales, ou pas, dans la joie critique et la mauvaise humeur, pardon, la bonne humeur journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir, et avec moi cette semaine, Constance Jamais du Figaro. Hello Constance.
Salut Pierre.
Frédéric Rapi de Télé 7 jours. Bonjour Frédéric.
Salut.
Et Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Salut Jean-Maxime.
Hello Pierre.
Donc au menu cette semaine, les séries françaises de Netflix, Amazon et autres plateformes qui sont encore rares mais qui arrivent en force ces jours-ci, puisque Prime Video, donc ça c'est Amazon, vient de lancer Deutschland et que Netflix sortira ce vendredi sa deuxième création made in France après Marseille. Ça s'appelle Planqueur. Ajoutez à cela les débuts discrets de YouTube Premium dans la cour hexagonale. Et le compte est bon, nous avons assez de séries pour débattre de leur qualité. C'est parti pour ce nouvel épisode de Un épisode et j'arrête.
Notre région est entre mer et montagne. C'est le paradis. Soyez rassurés, j'ai trouvé la solution pour que notre village rembourse toutes ses dettes.
Comment ça ?
Non.
Si.
Madame le maire m'a solennellement promis qu'elle fera tout pour que vous vous sentiez comme chez vous.
Je suis pas certain que ce soit très heureux de se mettre là.
Bah, pourquoi? C'est la grande place du village.
Mais il y a le monument mort là.
Ok.
Puis ils font oh, deux guerres perdues. Comme accueil, on aurait pu trouver plus rien, non?
Honneur au nouveau venu, Amazon Prime Video, nouvel entrant dans le PAF, comme on disait avant, avec Deutschland, dont on vient d'entendre un extrait, enfin la bande-annonce en tout cas, et dont la saison 1 a été mise en ligne le 30 novembre. On attendait une réponse au Marseille de Netflix, catastrophe dont nous avons longuement débattu par le passé. Mauvais rêve que nous nous efforçons tous d'oublier. Amazon a-t-elle fait mieux? Ça ne serait pas trop dur. Avec cette comédie franco-allemande, donc Deutschland, sur la difficile cohabitation entre les habitants de Giscalos, notez bien, un petit village des Landes, et les 200 Allemands qui s'y installent pour relancer l'activité de leur entreprise de design automobile. Un projet piloté côté français par deux anciens des Guignols, scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est marqué partout dans les pubs, et qui sur le papier faisait, disons-le, un peu peur. Est-ce qu'on avait raison d'avoir peur, chers amis ? Constance.
Moi, je trouve qu'entre Marseille et Deutschland, deux séries qui ont à peu près des noms de localité, le match est à peu près nul. C'est-à-dire que Marseille, c'était mauvais et on riait, et Deutschland, c'est peut-être mieux joué, mais le contenu est tellement, pour moi, catastrophique à l'heure où on vit. Pour moi, c'est une fiction qui est parfois drôle, rarement émouvante et surtout très chauvine, ce que je trouve à l'heure du Brexit et de l'Europe un peu inconscient. Et je trouve que ça joue sur des clichés que ma grand-mère aurait eu. Ma grand-mère aurait eu 100 ans cette année, elle a vécu la guerre et je pense que du coup, c'est l'humour qui lui serait bien allé à elle. Mais je trouve qu'en 2018, c'est vraiment dommage.
Jean-Maxime.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu demandais si c'était, est-ce que c'est laid? Bah, c'est laid, c'était laid au son, c'est laid à l'image aussi, vraiment. Ça ressemble un peu au feuilleton quotidien les moins bons, on va dire le plus bel avis du début. Les flashbacks notamment sont vraiment affreux.
Avec les bords floutés,
ouais,
c'est magnifique.
C'est du premier baiser, vraiment. Oh. Je comprends pas comment ils en sont arrivés là. Et effectivement, ça retourne en arrière, 20 ans en arrière. Et à la limite que TF1 fasse encore ça aujourd'hui, parfois avec Camping Paradis par exemple, pourquoi pas. Mais le faire sur une plateforme de streaming où on attend un peu d'audace quand même, un minimum d'audace, c'est quand même inquiétant.
En même temps, ça se trouve, c'est comme Marseille. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque du lancement de Marseille, on disait, en fait, c'est une blague. En fait, il y a un truc tellement méta derrière, on n'a pas compris. On va se prendre une baffe terrible quand ils vont nous expliquer ce qui se passe. Frédéric, tu es seul au monde. On t'écoute. Tu as beaucoup aimé Deutschland.
Non, j'ai pas beaucoup aimé, mais disons que je m'attendais à une grosse catastrophe.
Catastropheux.
Voilà. Oui. Et le fait que le format soit 26 minutes, en fait, j'ai regardé.
Ah bon? Je crois que c'était 1h15 par épisode.
Non, c'est vrai que c'est laid, mais c'est pas si mal joué. C'est mal doublé. doublée, par contre.
Ah oui, alors faut expliquer qu'en France, on ne voit que la, on ne peut voir que la version doublée. Donc les Allemands parlent comme ça. Mais c'est fait un peu Papa Schultz quand même.
Juste une précision, c'est que cette série, elle est déjà diffusée en Allemagne sur une plateforme allemande, Deutsche Telekom. Donc c'est une série coproduite par Amazon.
C'est une coproduction.
Voilà. Ouais. Et en fait. Bon, moi qui ai l'habitude de regarder des séries sur TF1, c'est un peu mieux que Camping Paradis.
C'est un peu mieux que Derrick, quand même, faut le dire.
Non, non, mais
bravo Amazon.
Moi, j'ai trouvé, franchement, que c'était, bah, je vais pas dire une bonne surprise, mais j'étais moins catastrophé que je pensais. Et je me dis que par rapport à ce que tu dis, Jean-Maxime, sur l'audace de Amazon, en fait, c'est une série. Amazon, ils s'en foutent de faire des bonnes séries ou pas. Ils répondent à un service. Les gens, ils achètent des trucs sur Amazon. Et cette série-là est là pour combler, à mon avis, un besoin.
Alors, voilà. Justement, est-ce que, comme dirait notre ami Roger Meurtaux, on est trop jeune pour ces conneries? Et le but d'Amazon, c'est de toucher un public qui est plus proche de celui de TF1, tu le sous-entendais. Et nous, on arrive avec notre regard critique, là, en se disant, bon, on attend d'Amazon, de Netflix, de faire des trucs révolutionnaires. Et eux, ils attendent juste de faire de l'audience, Jean-Maxime.
On ne peut pas faire sur Amazon une plateforme payante, une série qu'on pourrait retrouver sur une chaîne gratuite, sur TF1, France 3, etc. Les gens ne vont pas payer pour regarder ça.
Constance.
Moi, je trouve que d'un côté, on a Deutschland en France et en Allemagne, ils nous font un truc sur les nightclubs qui est Beats. Alors, à moins que l'acheteur allemand soit fondamentalement différent de l'acheteur français, je voudrais comprendre pourquoi il y en a un qui est un peu novateur dans des terrains plus inattendus et pourquoi on a quelque chose, je maintiens, de Chauvin, donc qui joue complètement sur les clichés, enfin même sur TF1.
Donc les Allemands ont tous des grosses berlines.
Ils sont machistes, les femmes bossent pas.
Naturistes aussi. Et ils mettent des chaussettes avec leurs sandales. Les Français sont brouillons. Font la grève, enfin voilà.
Et ils font des mouvements de résistance avec De Gaulle en effigie, enfin, je cherche même plus à comprendre.
On a Transparente aux États-Unis qui est quand même une série avant-gardiste, on va dire.
Oui,
et on a même
The Marvelous Miss Maisel, oui, qui est un grand spectacle extrêmement intelligent et très fin.
Mais tout ça, ce sont des séries qui sont produites par Amazon pour Amazon. Ça, c'est, mais n'oubliez pas, une coproduction. Moi, j'ai plus l'impression qu'Amazon, c'est une sorte d'opportunité. Ils se sont dit, tiens, il y a un truc, on va le tenter. Mais pour moi, c'est pas la vraie.
Enfin, elle est vendue comme la série Amazon, partout dans le métro, enfin voilà.
Une bêtise de, et puis même le titre, enfin on est d'accord, Deutschland, on avait tous pas envie de regarder, quoi.
Ça s'est pas rêvé sur le papier.
Voilà. Dès la conférence où ils ont lancé la série, enfin moi je sentais le truc arriver, donc voilà.
Mais quand même le casting laisse penser, pardon, j'insiste, qu'il vise un certain public. Enfin, Marianne Chazelle, c'est pas l'idole des jeunes quand même.
Pour vous dire, j'ai l'impression d'avoir vu qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Enfin, c'est un film grand public. C'est vraiment.
Ah oui.
Ben oui, mais ça a fait 10 millions d'entrées. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un public pour ça. Et en gros, c'est pas un public de sériephiles. C'est un public de. Comment on va appeler ça, de grosses
je sais pas, Constance.
Mais dans ces cas-là, moi je veux bien qu'on fasse un truc pour le public un peu plus de TF1, mais moi je maintiens que cette série elle serait diffusée sur France 2, ça aurait hérissé les poils de tout, et pourquoi prendre des clichés que j'ai trouvés dans mes manuels d'allemand quand j'étais en 6e il y a 20 ans.
Mais parce que c'est... Oscar is wunderbar.
N'oubliez pas,
moi j'avais ça.
La série est coproduite, elle est franco-allemande.
Enfin, les Allemands ils font des bonnes séries.
Non, justement, la partie allemande, franchement, c'est celle. Enfin, les parties allemandes, c'est les meilleures de Deutschland parce qu'ils ont coécrit avec un scénariste allemand et un scénariste français. Et quand au moins, les Allemands, ou la vision que sont les Français, ou les péripéties des Allemands entre eux, je trouve que ça passe mieux que le côté. À un moment, il y a même un personnage allemand qui dit : mais on nage dans les clichés, mais c'est vrai qu'on. Enfin, je ne comprends pas.
Et surtout, il n'y a pas de recul. Enfin, prendre des clichés éculés et s'amuser avec et les détruire et avancer intelligemment, why not, pour parler en bon allemand. Mais là, je comprends. Non, mais j'ai fait exprès. J'ai fait allemand
LV1. Ce qui manque, on avait tous envie, je pense, quand tu parles du côté méta, il n'y a pas de méta dans.
C'est très premier degré.
Voilà.
Ah, oui.
Alors, il faut vraiment attendre la fin. Parce que la fin, effectivement, on comprend qu'il y a un message pas trop chauvin. Mais franchement, c'était pas le meilleur chemin de traverse pour y arriver. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pour dire, ah bah regardez, on est toujours bloqué sur l'occupation des 70 ans. Moi, il y a un personnage qui dit, ah bah si la résistance avait été aussi nulle que vous, on serait toujours occupé. Enfin, je trouve ça aberrant de dire ça aujourd'hui.
On va quand même se dire un truc, c'est que donc le duel dont on a parlé au début de cette émission, c'est Marseille-Deutschland.
Match,
okay.
Match nul.
Voilà. Alors la question, c'est comment on en arrive là? Et après, on va parler évidemment de Planqueur, qui est la suite, la deuxième proposition de Netflix. Est-ce que ça traduit pas juste l'image que les gens ont de nos fictions et la télé française. Les Italiens ont des séries, on en avait parlé ici dans un podcast, les Italiens ont des séries de mafieux. Les Allemands ont des propositions un peu plus... Les Espagnols, il y a toujours beaucoup de soupe dans ce que les gens à l'international vont proposer. D'un peu de telenovela dans tout ce qu'ils font. Donc nous, notre identité aux yeux de Netflix, puis maintenant d'Amazon, c'est qu'on fait des trucs ringos, quoi. C'est ringard, Marseille. On a dit la même chose sur Marseille et sur Deutschland. C'est ça a 30 ans de retard. On a l'impression de voir un mauvais téléfilm de TF1 des années 90.
L'exotisme français, c'est la ringardise apparemment. Ouais.
Ah bah, apparemment, on est bloqué dans le temps, sinon.
Ouais, ou peut-être que Netflix ou Amazon n'ont pas été convaincus par les projets plus innovateurs des Français. Quoi.
Tu vois, hey, Frédéric, ouais. J'avais marqué, ma blague, c'était qu'est-ce qu'on a fait au streaming pour mériter ça. Bon, tu vois, quelque part, on se recroise.
D'accord. Amazon, ils sont quand même allés chercher Telle France, donc c'est eux qui produisent, qui font déjà Plus belle la vie, qui faisaient Louis la Brocante, Sœurs-Thérèse.com. Je crois qu'ils sont surtout allés voir des producteurs plus que des scénaristes.
C'est un peu le cas de Netflix aussi sur Marseille.
Ils sont allés voir des gens qui faisaient déjà des succès à la télévision française, alors qu'on aurait voulu qu'ils aillent chercher des producteurs un peu moins connus et peut-être des scénaristes nouveaux.
Mais moi, juste pour préciser le match Deutschland à Marseille, moi j'ai été plus déçu par Marseille que par Deutschland.
Enfin, parce que t'attendais quelque chose de Marseille qu'on n'attendait rien de Deutschland.
Voilà.
2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main.
Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement.
Moi c'est Jules.
Elsa.
Dîner vendredi soir, du coup je vais t'expliquer, tu vas y aller ma fille.
Je suis bidon.
Je vois tout sauf quelqu'un de bidon moi. T'es magnifique.
Le mec m'envoie un message pile au moment où je renonce à la vie.
C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin pour la baiser. Non mais attends, hé. Le mec c'est pas un pute hein.
Oh.
Ah non, c'est un pute plus, hein. Voire plus.
Mais comment t'as pu lui faire ça, quoi?
Tu la kiffes un peu.
Mais vous êtes trop chelou ce soir. Vous me cachez un truc ou quoi?
Tout n'est pas perdu pour les Jones, puisqu'arrive vendredi 7 décembre sur Netflix Plan Cœur, pas tout à fait pour la même cible, une comédie romantique à l'anglo-saxonne, imaginée par un trio de scénaristes franco-britanniques, dont Noémie Saglio, co-créatrice de Connasse avec Camille Cotin. L'histoire d'Elisa, trentenaire parisienne coincée, incapable de se remettre de son ex, qui va rencontrer un type formidable, Jules, en fait un pute, entre guillemets, payé par ses copines, évidemment, sans doute, c'est une évidence, ils vont tomber amoureux. Et vous, chers amis, vous êtes tombés amoureux ou pas ? Constance.
Alors ça,
Raclage de gorge.
Comment dire ? Donc j'ai regardé la série, j'ai mangé les épisodes sans m'en rendre compte un vendredi soir où j'étais fatiguée, où j'avais pas envie de penser. Donc je me suis pas ennuyée, j'ai pas passé un moment désagréable, mais pour moi, si on devait filer la métaphore, c'est dans la veine de Bridget Jones, mais le Bridget Jones de 2001, quoi. Ça, pour moi, c'est la comédie
encore romantique. Encore du ringard.
Bah, pour moi, c'est la comédie romantique mais avec 15 ans de retard, quoi. Enfin, on a un peu, enfin c'est un peu plus évolué que Sex and the City, mais à peine et la manière dont les protagonistes parlent. Je trouve pas que ça fait très Jones aujourd'hui, ça fait Jones.
Après, ils ont 30 ans. Hein, c'est,
voilà.
C'est,
mais donc, je trouve que la manière de parler, t'y crois pas trop. Et les personnages, alors, sont touchants, mais je trouve qu'il y a une excessivité des copines de la protagoniste principale qui s'appelle Elsa qui fait que très très vite on arrête d'y croire. Enfin, on sait pas trop si on est dans la bulle Sex and the City ou dans un Paris réaliste. Enfin, et à la fin, on sait que ça va être heureux, donc. Moi qui aime bien Paris Match et qui lis Hello Magazine toutes les semaines, je regarde ça volontiers. Je n'oserais vous l'avouer jamais de la vie. Mais après, est-ce que pour moi, c'est une série que je retraînerai dans 2 mois? Bah, j'aurais rien. Non, c'est comme du Marie Ginsclark ou du Harlan Coben, j'aurais tout oublié dans 2 mois.
Jean-Maxime.
Moi, je suis assez charmé par cette série. C'est vrai qu'elle est vite oubliée. Je vais pas y penser toute l'année. Mais j'attends quand même la saison 2 avec impatience, déjà.
D'autant que comme les extraterrestres arrivent à la fin, là.
Non, je déconne. Oui. Non, mais c'est assez attachant. C'est vrai que c'est pas toujours fin, que c'est parfois un peu trop vulgaire. Mais tous ces personnages sont bien écrits. On a des héroïnes féminines comme on n'en voit pas beaucoup en France, qui sont jeunes effectivement, ça peut plaire aussi aux ados d'ailleurs, pas seulement.
Elles sont stéréotypées, disons-le, hein. D'entrée de jeu, elles sont très stéréotypées.
Oui.
Ça fait partie de la comédie, hein, mais
oui.
Y a la fausse moche, comme je dis moi, hein, l'héroïne, c'est-à-dire on lui a mis des lunettes, on a mis des lunettes à Zita Enro, qui est juste magnifique, et puis elle est un peu greluche, et du coup on se dit, oh là là, vraiment, elle trouvera jamais de mec, personne n'y croit, évidemment. Il y a la maman et la putain, hein, pour dire une chose simplement, la copine enceinte qui est chiante, qui est psychorigide, et l'autre qui s'envoie tout Paris parce que voilà, elle est libre. Et là où la série réussit, excuse-moi de t'avoir interrompu Jean-Maxime, c'est que, y compris le pute, on comprend finalement qu'ils ont des failles et c'est pas trop mal amené. Ça darde un peu. Hein. C'est en fin de saison qu'on commence à s'attacher un petit peu à eux en
c'est
tant qu'être humain.
Les personnages masculins, au départ, voilà, on se dit ok, ouais, pourquoi eux, ils sont mignons, machin.
Il
ouais,
y a que le pute que je trouve réussi. Les autres, ils sont quand même. On va l'appeler Jules, c'est plus délicat. Mais
mais il y a quand même aussi de la diversité. Il faut le souligner. C'est
plus
rare.
Que dans d'autres Island où il y a un figurant.
Il y a un figurant noir au début. Oui. C'est tout.
Voilà, une héroïne métisse. Bah dis donc, c'était pas arrivé depuis longtemps à la télé française, même si c'est pas la télé vraiment. Et oui, c'est hyper attachant. Moi, c'est ça que je retiens.
Frédéric.
Ben, moi, je vais discorder.
Ouais, moi, t'es fan de Dutchland, donc on t'écoute plus. C'est fini.
Non, mais j'avais très envie de regarder Planqueur, série pour les millennials, c'est ce que j'avais compris. J'ai regardé un épisode, j'étais atterré, mais vraiment atterré. Et comme ce week-end, j'ai vu quelqu'un qui avait vu la série, un autre critique série, je me suis dit, on va faire un deuxième épisode. Et moi, j'ai trouvé que les dialogues étaient vulgos. Je trouve que c'est du théâtre de boulevard. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu les pièces que ma mère m'emmenait voir quand j'avais 15 ans. Je m'emmerdais grave. Et puis c'est pas du tout crédible. Alors rien que
ah ben non, mais c'est une rom-com à la ouais, Jack Jones.
Un escort boy normalement, l'escort boy il couche qu'avec des hommes. Je suis désolé.
Ah bah non, ça existe les gigolos.
Gigolos à Paris, hommes qui couchent avec des femmes.
Mais bien sûr que
c'est. Ouais, ouais, bon,
c'est.
Mais simplement.
T'as l'air d'être renseigné.
J'en connais.
Non mais j'ai trouvé. Moi j'ai vraiment été déçu parce que j'avais enfin vu comment Netflix met la pression sur cette série. Il y a des affiches partout dans Paris et tout ça. Je me disais.
Ouais, enfin si t'as vu les bandes annonce, tu t'attendais pas quand même à du Scorsese ou à du David Simon.
Non, sauf que la bande-annonce, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la série. Voilà, c'est ce que j'ai eu l'impression. Et moi, j'étais vraiment déçu, quoi.
Alors, je vais me placer quelque part au milieu. Moi, je trouve que la comédie marche pas à tous les coups et qu'il y a un peu trop de stéréotypes. J'espère que la saison 2 sera un petit peu plus fine sur les personnages secondaires. Ça fonctionne moyennement pour moi. J'ai pas beaucoup ri en regardant cette série. Ceci étant dit, en revanche, la tension centrale qui est vieille comme les comédies romantiques, légèrement mise à jour puisque c'est Pretty Man, quoi, c'est Pretty Woman à l'envers, c'est plutôt le pute qui rencontre la fille qui va le sauver entre guillemets. Moi je me suis laissé prendre, c'est simple, je n'attendais qu'une chose de cette série, c'est de tomber amoureux de l'héroïne, de Zita Enro, de me dire oh là là, j'aimerais bien que ça soit moi qui la sauve. Et tu sais quoi, je suis très content que ça soit, on va donner son nom, hein, parce qu'il a un nom, l'acteur, il s'appelle Marc Ruckman, je le connaissais pas, il a joué dans Le Chalet sur France 2, donc il vient de loin, le pauvre garçon, et il est très bien aussi, il est absolument charmant, et ça fonctionne, ils sont juste tous les deux, on a envie qu'ils s'aiment, pour longtemps, et donc, moi, je regarderai la saison 2, même si je sais que c'est pas une grande série. Constance.
Moi, je trouve qu'effectivement, on tient pour le duo principal. Moi, les copines et leurs copains, je suis moins convaincue. Ça me tape beaucoup sur les nerfs. Je trouve que ça crie beaucoup. Mais par contre, je trouve que autant la série met beaucoup de temps à arriver là où elle veut aller. Mais la fin est vraiment, pour le coup, pas trop stéréotypée. Et ça rassure s'il y a une saison 2.
Ça reste un peu moins ringos que Dutchland, mais c'est quand même pas la grosse prise de risque Netflix. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut se dire, tiens, finalement, une comédie romantique, c'est plutôt rare et donc c'est finalement une forme de prise de risque où on se dit merde, pourquoi les Allemands ils ont eu Dark, enfin pourquoi nous on n'a pas des trucs à concept un petit peu plus compliqués comme ça. Constance,
enfin déjà moi j'aurais envie de dire Planqueur, ça aurait pu être un film, ça aurait pu être Bridget Jones à Paris, enfin pourquoi l'avoir découpé en épisode de 30 minutes sachant qu'au départ c'est inspiré d'un script d'un film anglais qui s'est jamais tourné, donc
l'idée de départ vient d'un anglais, hein.
Ouais. Mais du coup, pourquoi, pour moi, le format série ne s'appliquait pas forcément, finalement.
Moi, je pensais, en regardant cette série, je vous avoue que je pensais à Insecure, une série qui passe sur OCS. Je pensais que ça serait un peu dans cet esprit-là, qui raconte l'histoire d'une trentenaire black à Los Angeles, qui est fine, qui est intéressante. Et moi, ce que je trouvais dérangeant dans Planqueur, c'est que c'est très politiquement correct. C'est qu'il n'y a pas de beaucoup de nuances et j'ai plus l'impression que Paris est un prétexte d'un décor et que finalement la vie des millénials s'en fout. Enfin,
mais puis de toute façon c'est une vie très confortable qu'ils ont. Ils sont bon, il y en a un qui est médecin et tout. Ils ont quand même des jobs certains. Enfin, l'héroïne bosse à la mairie de Paris.
Il est infirmier, pardon.
Mais bon, elle s'est expliqué l'appart. Ils nous ont fait une Friends. C'est la grand-mère ou un truc comme ça à leur appart. Donc il y a une explication. C'est pas la dèche. C'est le Paris du brunch le dimanche, quoi. C'est voilà. Mais après une comédie romantique. Est-ce qu'on est en droit d'attendre d'une série comme ça, qui est un bonbon pour les vacances, d'être un truc hyper pertinent contre la réalité sociale de la jeunesse parisienne?
Non, mais là est la question. Ce que je veux dire, c'est, enfin, moi, je pensais que cette série irait du côté de, j'avoue, hein, du côté de Girls ou quelque chose qui me raconte.
On pourrait y penser, mais c'est vrai que c'est pas Girls.
Mais c'est pour ça que je suis plus dur avec Planqueur qu'avec Deutschland, parce que Deutschland, je n'attendais rien, tandis que celle-là, je me disais, merde, c'est la deuxième série.
Ça
Netflix.
Répond pas à ma question, finalement, pas encore la grosse prise de risque qu'on attend Netflix. Peut-être qu'elle va venir. Peut-être que Netflix, en France, ils ont hyper peur, ils ont été refroidis par Marseille, ils ont envie de faire un truc qui soit peut-être plus fédérateur. Peut-être que chez les millennials, comme tu les appelles, mais moi je dirais plutôt les 20-40, parce que tu vois, moi je suis plus près de 40 que de 20, et je me suis pas senti exclu de cette histoire-là. Peut-être que ça peut fonctionner. Pas de là à devenir un classique que les gens se bingent à fond et tout, mais alors, un jour de vacances, le matin, après avoir trop mangé la veille, se binger la saison, pourquoi pas?
Et puis c'est un public que les grandes chaînes ont complètement zappé depuis des années. Donc il y a une envie aussi, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Il y a OCS qui propose un peu des choses dans cet esprit-là parfois, et 25, j'ai pensé à 25 parfois en regardant Planqueur, sauf que 25 ça virait au déprimant
dark.
Parfois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Là au moins ça reste léger et fun jusqu'au bout.
Alors il y a des choses à venir a priori plus originales sur Netflix. J'ai fait une petite liste, hein, mais on va essayer de compléter. D'abord Osmosis, hein, en préparation, adapté d'une série digitale d'Arte, puis Family Business. Donc Osmosis, une série d'anticipation, hein, sur l'amour, enfin sur le voilà.
À la Black Mirror.
À la Black Mirror plutôt, avec notre ami Hugo. Zut, j'oublie son. Hugo Becker, bien sûr. Puis Family Business, une comédie où un jeune homme transforme la boucherie familiale en coffee shop façon Starbucks français. Marianne, dont l'héroïne romancière découvre que ses personnages monstrueux sont en train de reprendre vie dans le vrai monde. Ça a l'air assez intéressant, bien. Ça, c'est créé par Samuel Baudin, qui a fait la Lazy Company et Tank notamment. Et enfin, une adaptation du roman de Thierry Jonquet, Vampire, par Benjamin Dupin, scénariste de 10% notamment. Ça fait plus de choses, plus de fantastique, de genre, des choses qui ont l'air un peu plus culottées et que la télé française n'attaque pas souvent.
On espère qu'ils vont avoir des moyens pour les faire aussi, parce que...
Il faudra des effets, là. Hein.
Voilà, quand Arte fait du genre, Trépalium, tout ça, c'est pas toujours hyper réussi, il leur manque de l'argent. J'espère que Netflix va mettre ce qu'il faut pour que ce soit à la hauteur. Après, moi, même si ça me fait envie, à chaque fois, j'ai l'impression que ça ressemble à un truc qu'on a vu à l'étranger, déjà. Donc, on a parlé de Black Mirror, mais... Enfin, les vampires, ça fait 15 ans qu'on a des séries sur les vampires aux États-Unis, donc est-ce qu'ils vont trouver un moyen de faire quelque chose de vraiment français avec cette idée-là? J'espère.
Moi, je vote Marianne, hein, l'héroïne romancière qui découvre que ses personnages monstrueux sont en train de prendre vie dans le vrai monde, je trouve ça.
Oui, mais ça me fait penser à cette série anglaise, comment je perds son nom tout à coup, mais avec Eva Green.
Penny Dreadful.
Penny Dreadful, tu as raison.
Je pense un peu à ça, mais bon.
Constance ?
Moi, j'avoue que Marianne m'intéresse pas mal et je suis assez curieuse de voir le Arsène Lupin modernisé avec Omar Sy. J'attends
de
voir ce que ça peut donner. C'est calqué sur Sherlock, mais ça peut être intéressant.
Il y a d'autres choses qui sont sur le feu, Jean-Maxime ?
Il y a Gad Elmaleh qui aura une série, Eugene France, qui sera une coproduction. Je pense que ça se passera à Los Angeles, mais sur un Français qui fait du stand-up aux États-Unis, qui essaye de percer. C'est vrai que les séries comme ça sur des acteurs de stand-up, on en a eu sur HBO, sur FX et tout aux États-Unis. En France, pas tellement, à part Access sur C8, qui est plutôt réussi en plus. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis en Asie, Eddie, quand même, une série de Damien Chazelle, La La Land, First Man, c'est lui, qui se déroulera
en France.
Voilà, elle se déroule en France. Il y aura des acteurs français, on ne sait pas encore qui, mais franco-américaine comme lui d'ailleurs.
Frédéric.
Moi, j'ai eu vent de parce que j'écris des polars, donc je suis des copains là-dedans. À un moment, Netflix avait un projet d'adapter une série d'un auteur qui s'appelle David Cara, avec un héros né pendant la Seconde Guerre mondiale, super héros qui était immortel et tout ça, donc il y avait un côté un petit peu James Bond et tout ça. Après, je sais pas où trop ce qu'on est, parce que ça demandait beaucoup d'argent. Et puis il y avait aussi, là on parle d'Amazon.
Non, mais là c'est Netflix,
Netflix
pour l'instant. Alors, mais
Netflix,
est-ce qu'il y a d'autres, parce que c'est vrai que Netflix communique énormément. Est-ce que les autres le font aussi un petit peu? Est-ce qu'on a d'autres choses à venir?
Bah, sur Amazon,
ouais.
Oui, donc ils ont annoncé peut-être une série avec Jean Dujardin, et on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais il y avait un projet à un moment qui s'appelait Le French, ou La French, je crois Le French, qui était une sorte de tueur à gages, qui serait incarné par Jean Dujardin.
À creuser tout ça, voilà. Évidemment, c'est que les annonces...
Ça existe sous forme de BD, en fait. Voilà.
Et de toute façon, ils sont obligés de faire des séries françaises, donc il y en aura
forcément
beaucoup
plus. C'est dans les obligations légales.
Ouais,
voilà.
Les quotas,
il va falloir en faire, donc il faudra évidemment, et on le fera, suivre tout ça.
Après, enfin, c'est pas des séries, mais aussi Netflix développe ses documentaires. On va avoir dans la foulée de France 3 qui fait aussi un documentaire sur l'affaire Grégory. Netflix fait aussi un documentaire sur l'affaire Grégory.
En épisode.
Ouais.
Donc de la série documentaire, mais c'est encore autre chose.
Vous avez bu un sérum qui fait de vous des hommes hors du commun.
Quoi ? Vous avez des capacités psychiques extraordinaires.
Ah, c'est vraiment de la merde, ton pouvoir.
Vous êtes l'espoir de la résistance.
Et si on veut pas être résistant, on fait comment?
Assieds-toi, ferme ta gueule.
Il y a des amants partout.
Les barodés autour de ma putain de maison, ces salopes. Si vous fermez vos grandes gueules de con, vous pourrez passer la nuit dans ma grange. Mais je vous préviens, si vous la salopez, je vous plombe le cul, ça vous fera la bite.
D'accord.
Soit vous êtes avec nous, vous êtes des résistants. Soit vous êtes avec eux, vous êtes des collabos. Compris?
Je m'en fous de cette guerre.
Vous avez tout fait foirer, vous tous.
Et vous, vous y êtes pour rien, peut-être?
Scheiße.
Encore une série avec des Allemands partout, tiens, dis donc, c'est la mode sur les plateformes. N'oublions pas YouTube Premium, chers amis, qui vient assez discrètement de lancer deux séries françaises. Ça, c'était un peu plus d'un mois, hein. Ça commence à dater maintenant. Ça s'appelle Les Emmerdeurs, on vient d'en entendre un extrait. Et Groom, qui pour les présenter? On commence avec Les Emmerdeurs, allez.
Les Emmerdeurs, ça se passe dans la France occupée, juste avant juste avant que la ligne de démarcation disparaisse. Et donc, c'est par un jeu de hasard, ils étaient là au mauvais moment, des jeunes gens se transpuissant d'un sérum magique qui leur fait apparaître des capacités fantastiques, mais en échange, ils deviennent aveugles ou ils sont paralysés, ce qui est un peu gênant quand on doit fuir les Allemands.
Et donc, ils n'ont pas super envie d'être résistants et ils vont devenir un petit peu super résistants. C'est un peu ça l'idée. Qui l'a vu autour de la table? On a tous pu voir un petit peu. Quand même, moi, j'avais vu les deux, trois premiers épisodes, je crois.
Je crois que j'en avais vu autant que toi. Moi, j'avais trouvé...
C'était montré à La Rochelle. Notamment.
J'avais trouvé que c'était, avec le peu de moyens qu'ils ont eu, c'était plutôt potache, mais pas mal.
Oui, moi j'avais trouvé que c'était d'ailleurs plus intéressant dramatiquement que d'un pur point de vue comique. C'est une veine comique qu'on connaît bien, enfin que je m'embrouille pas. C'est Golden Moustache qui a bossé là-dessus, donc on retrouve certaines personnes qu'on avait vues dans HeroCorp notamment. On retrouve une veine comique française super naturelle comique, si j'ose dire, qui un peu de mal à se renouveler, je trouve, qui est toujours dans le même genre d'humour, mais qui a trouvé ses repères, c'est déjà pas mal, et qui du coup dans cette série-là, moi ce qui m'a un peu embêté, c'est que j'aurais voulu un truc un peu plus fou. J'ai trouvé ça un peu sage, j'aurais préféré que ça parte complètement en sucette, et en l'occurrence c'est sa qualité et son défaut, c'est que c'est à la fois structuré, donc c'est bien, c'est propre, c'est bien fait, ça joue à peu près correctement, ce qui est l'essentiel quand même. Donc on ne s'ennuie pas, on a envie de voir où tout ça va, mais j'aurais aimé un truc un peu plus dingue venant de YouTube qui n'a rien à perdre, en tout cas sur ce secteur-là. L'autre série s'appelle Groom. Autour de la table, quelqu'un l'a vu?
Ouais.
Alors vas-y Jean-Maxime, on t'écoute.
C'est l'histoire d'un gosse de riche dont le père lui coupe les vivres parce qu'il fait n'importe quoi.
Son père, c'est le patron d'un hôtel.
Voilà, c'est un patron d'un hôtel, il va lui demander du coup de travailler pour la première fois de sa vie dans un hôtel.
Gros hôtel de luxe, hein.
Ouais, en Normandie. Et c'est pas mal, je trouve.
Au
c'est
secours.
Assez drôle.
J'ai trouvé ça
assez drôle.
Ah bah on n'est pas d'accord.
On dirait un sketch de 5 minutes étendu sur 20 minutes, donc au
c'est
bout d'un moment,
c'est
lourd.
C'est un peu ce que je lui reproche, moi. J'aurais trouvé ça bien en format caméra café, en voilà.
Bah, c'était une web-série à la base, hein. C'était des vignettes plus courtes, mais.
C'est les gens de Bref, je crois, qui ont fait la série. On retrouve un peu cet esprit-là par moment. Ça va un peu loin dans les blagues, mais bon, une fois qu'on a vu un épisode, j'ai l'impression qu'on en a fait le tour, quoi.
Ouais, mais j'en ai vu plusieurs et j'ai vite fait le tour. J'ai trouvé que c'était hystérique et pas drôle. Ça m'a pas fait rire du tout. En fait, la meilleure scène, c'est l'ouverture. Il y a Kian Kojandi qui est là. Ça marche. Il y a Rufus, je crois, qui passe sa tête. Il y a un ou deux trucs drôles. Et après, ça m'a crispé. J'ai trouvé ça un peu vulgaire. Ça m'a agressé visuellement. Je trouve ça très moche. C'est très coloré. En fait, j'ai eu l'impression de voir une mauvaise shortcom d'M6, quoi. Enfin, tu vois.
Oui, mais je pense qu'en format 5 minutes, on l'aurait accepté. On aurait trouvé ça sympa. Mais là, c'est trop long. C'est pas une vraie sitcom.
Et donc là, c'est Studio Bagel. Hein. C'est un peu le face-à-face Golden Moustache Studio Bagel. Ce qui tend quand même à prouver que YouTube Premium, alors c'est pas très original, mais eux, au contraire, ils se sont dit, on va bombarder les jeunes, quoi. Vraiment, on s'adresse aux spécialistes de la vidéo comique, à des gens qui sont déjà installés sur YouTube et qui ont déjà une base de fans.
Et sur YouTube, en fait, on peut voir un épisode gratuitement et ensuite, il faut payer pour voir les suivants. Et je vois mal pour le moment les gens avec deux séries s'inscrire, se payer.
Alors, attends, il y a les séries américaines et tout aussi, hein.
Oui.
T'as tout le catalogue américain.
Mais dont on parle pas.
À... Ouais, on en parle pas. Peu, mais il commence à y avoir une série ou deux pas inintéressantes sur YouTube. Ah, il y a quand même tellement de choses. Bah, justement, pour fermer cette émission, on va toucher un mot quand même. Il y a d'autres choses, il y a d'autres plateformes. Il y a Facebook Watch qui a commencé. A priori, il y a rien d'annoncé de concret pour la France. Mais est-ce qu'on peut se dire que, avec autant de canons différents, on va finir par tirer juste qu'il y en a une qui va sortir une bonne série française, là?
Statistiquement, oui.
Alors, on va y arriver.
Puis je pense que quand ils auront contenté la ménagère de plus de 50 ans qui achète des choses sur Amazon et qui utilise le compte de son fils pour aller sur Netflix, peut-être qu'ils viseront un autre public.
On pourra faire des choses plus ambitieuses. Et on terminera là-dessus cet épisode 76 de Un épisode et j'arrête, auquel participaient cette semaine trois membres de l'ACS, comme d'hab, Constance Jamais du Figaro, Jean-Maxime Renaud d'Allociné, Frédéric Rapilly de Télé 7 jours. Merci à vous et merci aussi à Jules qui était à la technique. Un petit rappel des infos techniques. Dutch Leland est sur Prime Video déjà allié. Planqueur arrive vendredi 7 décembre sur Netflix et Les Emmerdeurs et Groom sont à voir sur YouTube Premium. La semaine prochaine, nous parlons d'adaptation de romans en série en nous attardant sur L'Amie prodigieuse qui arrive sur Canal+. D'ici là, connaissez-vous nos comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter? Vous devriez, ils sont très pratiques pour nous suivre. Allez, salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
What?
That's the last one.